100% d'Europe, Catherine Potet.
Bonjour, au sommaire aujourd'hui, reportage sur ces jeunes tchèques qui ne comprennent plus la langue slovaque, alors que les jeunes slovaques, eux, comprennent toujours le tchèque. Explication et reportage de notre correspondant Alexis Rosenzweig. En Pologne, le coming out d'une jeune femme homosexuelle qui publie également un livre sur l'histoire des lesbiennes en Pologne, une première dans un pays où l'homosexualité est plus que jamais tabou. Le portrait d'Accent d'Europe, aujourd'hui Eugène Indich, pianiste franco-américain d'origine slave. Il est l'un des plus grands spécialistes de Chopin. Enfin, carnet de voyage, suite de notre périple en Gagaouzie. Ils sont voisins, il n'y a pas si longtemps ils faisaient partie du même pays et pourtant ils s'éloignent les uns des autres sur le plan linguistique. Moins de 15 ans après la séparation de la Tchécoslovaquie, les jeunes tchèques ne comprennent plus le slovaque. Pour éviter que la situation s'aggrave, l'apprentissage du slovaque va donc être réintroduit dans les écoles tchèques. A noter qu'il y a moins de difficultés dans l'autre sens. En Slovaquie, on comprend toujours parfaitement le tchèque, grâce notamment aux chaînes de télévision privées tchèques, particulièrement prisées des jeunes slovaques. Reportage de notre correspondant Alexis Rosenzweig.
Jak se jmenuješ?
Alors ça veut dire comment tu t'appelles en tchèque et maintenant en slovaque.
Ako sa voláš?
Alors c'est pas tout à fait la même chose. Toi, Monika, tu es slovaque et tu vis et travailles à Prague. Est-ce que tu ressens parfois que les jeunes tchèques ont du mal à comprendre ta langue maternelle?
Oui, ça c'est vrai, c'est complètement vrai. Je pense que c'est plus pire en Tchéquie qu'en Slovaquie.
Et d'après un récent sondage, en effet, près d'un tiers des Tchèques âgés de 15 à 24 ans reconnaissaient éprouver des difficultés à comprendre le slovaque. Tchèque et slovaque, deux langues pourtant très proches, plus proches en tout cas que ne sont l'espagnol et le catalan par exemple, mais deux langues dont la prononciation est différente et le vocabulaire pas toujours identique dans certains domaines. Du temps de la Tchécoslovaquie jusqu'en 1993, tchèques et slovaques se comprenaient parfaitement. Généralement, les jeunes garçons tchèques allaient faire leur service militaire en Slovaquie. À la télé, tous les lundis, le programme de la chaîne nationale était uniquement en slovaque. Mais aujourd'hui, les ados tchèques ont rarement l'opportunité d'entendre parler ou de lire dans cette langue. Rudolf Hleb est l'ancien ministre de la culture slovaque.
La jeune génération tchèque n'a plus de contact avec la langue slovaque, contrairement aux générations précédentes. Le slovaque devient petit à petit, pour les 10-15 ans, une langue slave éloignée, comme peut l'être le polonais, le serbe ou le russe. C'est une mauvaise nouvelle, parce que nos deux nations se sont toujours mutuellement enrichies. Mais c'est vrai que les tchèques ont toujours été plus indépendants, moins intéressés par la culture slovaque que les slovaques par la culture tchèque.
À Bratislava, capitale de la Slovaquie, la question fait sourire et agace un peu en même temps. Les jeunes Slovaques ont du mal à se faire à l'idée que leurs voisins du même âge ne les comprennent plus, et c'est aussi parce que l'influence culturelle tchèque en Slovaquie demeure importante. Sandra étudie à Bratislava, et la dernière fois qu'elle est allée à Prague, mauvaise surprise, elle a eu du mal à se faire comprendre.
Je trouve ça ridicule, j'ai l'impression qu'ils ne nous aiment pas et qu'ils veulent faire comme si on n'avait jamais été ensemble dans un seul et même état. Moi, je comprends tout en tchèque, parce qu'ici, on a toutes les chaînes de télé tchèque, et puis le plus souvent, quand on va se louer un DVD, on met la version tchèque, parce que le doublage est de meilleure qualité que le doublage en slovaque.
À Prague, capitale de la République tchèque, c'est vrai que les occasions d'entendre parler slovaque sont plutôt rares. Dans les médias, l'une des seules voix slovaques que l'on entend régulièrement est celle de la correspondante de la télévision publique en Slovaquie et de temps en temps quelques programmes radio. Et signe des temps, pour la première fois, un film slovaque a récemment été doublé avant d'être diffusé sur la télé tchèque. Alors pour que les futures générations ne considèrent pas le slovaque comme une langue étrangère, le ministère tchèque de l'Éducation a tenté de mettre en place un programme spécial. Programme grâce auquel plusieurs matières pourraient être de temps en temps enseignées en slovaque. Tatiana Holasova est l'une des coordinatrices du projet.
Nous nous sommes aperçus d'un seul coup que nos enfants ne comprenaient pas le slovaque. Moi-même, je peux vous dire que ça m'a surprise. Je m'en suis rendu compte un jour quand mes propres enfants n'ont rien compris au mode d'emploi du four micro-ondes qui était écrit en slovaque. À l'initiative du ministère de l'Éducation, nous avons donc conçu des cours pour les enfants de 12 à 16 ans. dans 5 matières différentes, comme en géographie, pour que les profs les utilisent en classe et enseignent le slovaque de manière ludique, afin de susciter un intérêt pour cette langue chez nos jeunes. Nous complétons au fur et à mesure la liste de ces cours sur notre portail internet.
Ce projet pédagogique reste facultatif et son ampleur limitée. Mais les Tchèques se veulent optimistes. Leurs enfants ne considéreront jamais le slovaque comme une langue vraiment étrangère. Beaucoup se disent en plus que les nouvelles technologies favorisent la compréhension mutuelle. Grâce aux câbles et aux satellites notamment, les jeunes Tchèques peuvent désormais suivre leurs matchs de foot et surtout leurs matchs de hockey préférés avec des commentaires en slovaque.
Seria sa stiahuje teraz najbližšie do San Jose na 2.
Juliet Romeo.
Are you up for it?
I want you to know.
L'homosexualité est-elle toujours tabou ? En Pologne, la réponse est oui, plus que jamais. Anna Lachouk, journaliste à la radio Tok FM, musicienne de formation, également diplômée en psychologie, a pourtant choisi de faire son coming out il y a quelques semaines et de publier dans la foulée un livre intitulé « Les filles sortaient du placard ». C'est la première fois qu'un témoignage de ce genre est publié en Pologne. Maja Szymanowska a rencontré Anna Lachouk dans l'un des rares cafés gay-friendly de Varsovie, le Plan B.
Le Plan B qui vient d'ouvrir il y a 2 mois est devenu tout de suite un endroit très fréquenté par les homosexuels, grâce peut-être à son premier étage qui n'expose pas au regard des passants, à son accueil chaleureux et à sa jolie vue sur la place Zbawiciela. Anna Lachouk, la trentaine, une grande blonde à la voix forte, est l'une des 3 femmes en Pologne qui a osé déclarer publiquement son homosexualité. Son coming out a coïncidé avec la publication de son livre manifeste « Les filles sortaient du placard ».
J'ai commencé à penser à ce livre il y a environ 5 ans, c'était en 2001 je crois. Je connaissais déjà beaucoup de lesbiennes et à cette époque j'avais tissé des liens aussi bien avec des femmes qui n'étaient pas liées au mouvement qu'avec celles qui travaillaient au sein d'organisations. Mais curieusement, ce ne sont pas celles-là qui m'ont poussée à récolter les témoignages des lesbiennes polonaises, mais mes auditeurs. La radio pour laquelle je travaille était à l'époque très interactive, fondée sur un modèle américain de radio de proximité. J'abordais tous les sujets les plus divers et le thème qui revenait très souvent était celui de l'homosexualité. L'auditeur moyen y allait à chaque fois de son lot de stéréotypes et d'injures à l'égard des homosexuels. Cela me faisait mal car personne ne savait à l'époque que j'étais moi-même lesbienne. Je me suis dit qu'il fallait écrire un livre sur ce sujet, un livre racontant l'histoire des lesbiennes polonaises à travers différentes générations et qui tenterait de saisir l'évolution de leur mode de vie. Mais je voulais aussi écrire un livre qui permette aux gens qui n'ont jamais vu de lesbiennes, comme mes auditeurs, d'écouter ce que nous avons à dire.
Les réactions au livre d'Anna Lachouk ont été très positives. Son coming out s'est fait sans difficulté, mais la journaliste a conscience que sa situation est particulièrement confortable par rapport à d'autres femmes homosexuelles, comme celles qui travaillent par exemple dans l'éducation nationale.
La situation la plus difficile est celle des instituteurs, des profs homosexuels, car le ministre de l'éducation de l'actuel gouvernement est ouvertement homophobe. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. J'ai l'impression que dans les années 90, l'ouverture et la tolérance étaient plus grandes. Même chez les profs, on commençait à pouvoir aborder le sujet. Aujourd'hui, la peur est revenue et donc on se cache. Tout dépend cependant du lieu de travail. Les femmes exerçant des professions libérales, celles qui ont leur propre entreprise, sont plus libres d'afficher leur homosexualité car elles n'ont pas cette peur panique de perdre leur travail. Mais même parmi les héroïnes de mon livre qui sont militantes, qui travaillent dans les associations lesbiennes, il y en a peu qui ont accepté que je publie leur vrai nom. Il y a toujours cette peur que cela mette fin à leur carrière. Dans les familles, en revanche, c'est différent. Cela se passe beaucoup mieux. Les familles sont beaucoup plus tolérantes que les hommes politiques.
Anna Lachouk souligne que depuis l'arrivée au pouvoir des frères Kaczynski, l'atmosphère autour des homosexuels est devenue beaucoup moins friendly. Et si elle évolue dans un milieu très tolérant, si elle est l'une des 3 femmes à avoir fait son coming out public, elle n'ira tout de même jamais à une fête en dehors du cercle strict de ses amis avec sa partenaire.
En creux. Croatie, l'atmosphère à l'égard des homosexuels a aussi tendance à s'alourdir, alors que l'été dernier, les agressions d'homosexuels ont été nombreuses sur les côtes dalmates. La Croatie s'apprête à mettre en place dans les écoles publiques un nouveau programme d'éducation sexuelle, programme qui présente l'homosexualité comme étant contre nature. Blaise Gauquelin.
C'est une association proche de l'Église catholique qui a rédigé le manuel. Il a été validé par le ministère de l'Éducation et avant même qu'il n'ait été distribué, il s'attire déjà les foudres du Parlement européen et d'une trentaine d'associations de droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que selon ces dernières, il est en accord uniquement avec l'enseignement de l'Église catholique. Or, dès septembre, il doit se retrouver entre les mains de tous les écoliers de l'école publique. L'homosexualité y est présentée comme étant contre nature. Et selon le Parlement européen, cela contredit les lois croates qui interdisent la discrimination. Le président de la Ligue croate des droits de l'homme a lui aussi critiqué ce programme d'éducation sexuelle parce que, selon lui, il ne lutte pas contre toutes les discriminations et contre l'homophobie. Le ministère de la Santé doit désormais donner son feu vert, ce qui n'est pas encore gagné. Mais 88% des Croates sont catholiques et ils sont parfois choqués par le comportement des touristes. La mesure est donc plutôt populaire. Les associations homosexuelles occidentales ont d'ailleurs mis en garde les millions d'Européens qui se sont rués sur les plages du pays l'été dernier, car les agressions à caractère homophobe ont été nombreuses et la presse locale a accusé les gays d'envahir le pays. Pas sûr donc que ce nouveau programme scolaire, s'il est mis en place en septembre, fasse baisser en Croatie les statistiques des agressions à caractère homophobe.
Il est pianiste franco-américain d'origine slave et il se produira la semaine prochaine, le 22 mai précisément, lors d'un concert à l'UNESCO à Paris. Eugène Ingic est l'un des plus grands spécialistes de Chopin, dont il a enregistré en décembre 2006 en Pologne l'intégrale des Scherzi et des Impromptus. Eugène Ingic, c'est le portrait d'Accent d'Europe signé Paulina Zidi.
Il joue Chopin comme un Polonais, Debussy comme un Français et Prokofiev comme un maître russe. Voilà ce qu'écrivait un critique de Copenhague en parlant d'Eugène Ingic alors que celui-ci n'avait que 16 ans. Un jeu clair, une technique impressionnante, c'est à se demander pourquoi le pianiste n'est pas plus connu en France. Né à Belgrade mais d'origine russe, l'histoire d'Eugène Ingic est l'histoire d'un surdoué passionné par Frédéric Chopin. Il a 8 ans lorsqu'il commence le piano sous la direction du russe Alexandre Borovsky. À 10 ans, il joue déjà pour la télévision NBC. À seulement 13 ans, il donne son premier concert en soliste avec l'Orchestre National Symphonique de Washington et à 18 ans, il devient le soliste le plus jeune à jouer avec le Boston Symphony Orchestra. Surdoué peut-être, Eugène Ingic doit aussi beaucoup à ses professeurs, parmi lesquels Arthur Rubinstein, qui restera pour lui un maître et un ami. Pianiste et musicien extraordinaire pour les uns, artiste unique et inspiré pour les autres, son jeu sensible et lyrique fait mouche. Lauréat du concours Chopin de Varsovie en 70, il remporte également le Grand Prix du concours Leeds en 72 et le Rubinstein 2 ans plus tard. Frédéric Chopin encore, Eugène Ingic lui rend hommage à l'occasion des 150 ans de sa mort en jouant avec l'orchestre de la radio polonaise. Aux États-Unis, en Europe, en Orient, la plupart des orchestres ont eu la faveur de son talent, mais aujourd'hui c'est à Paris qu'il a finalement décidé de vivre et de travailler.
Dans quelques instants, carnet de voyage, mais tout d'abord direction la Suède avec Wrap Your Chops du groupe Korts.
For some friendly advice about a little substitute for the Henny or Nice. Spark me up, time when my pen wouldn't write. Kept my mind going through many a night. Guessed it, Einstein. The topic's a classic, and just like fine wine, a drop in the acid. It gives you a buzz, put stuff in perspective. Not too strong though, just enough to respect it. It calms me down when I'm on the run. It's my therapist, masseuse, llama, and one. It comes in all the colors of the army fatigues, and it never talks back, man, it always agrees. So if you're feeling stressed, depressed, knock on my door and I'll fix the rest. We'll talk some shit, laugh a lot, pull up a chair and just
grab your chops, round this stick of cheese, blow this game, and get high with me. Grab your chops.
But I won't. I'll just fill in the blanks with the things that I don't. I don't keep the hot shots pouring and pouring and start fighting the Burger King at 4 in the morning. I don't listen to people going on and on about the way I live, man. I'm snoring, it's boring. Sometimes I wanna stop and shout. Sometimes I can't cause I got the cotton mouth. I move in slow motion through the commotion. Don't call it propaganda, man, I'm doing promotion. I do as I please and whistle my tune while you're standing there looking like Mr. Magoo. So if you're feeling stressed, depressed, knock on my door and I'll fix the rest. We'll talk some shit, laugh a lot, pull up a chair and just
grab your chop. Round this stick of cheese, blow this game, and get high with me. Grab your chop. Round this stick of cheese, blow this game, and get high with me.
She's not to be mistaken for substance abuse, and not for you to do, cause you got nothing to lose. I love it dearly. But like Bonnie and Clyde, me, I'm Warren Beatty, she's my partner in crime. For us to hold hands, out of the question. People stare funny in our direction. See, technically, it's a social faux pas. Some might even say that I've broken the law. Come on, dawg. I do as I please, as long as I'm set and my crew is at ease. And if you want, we can all start filling the air. I got an ace up my sleeve and I'm willing to share. So if you're feeling stressed, depressed, knock on my door and I'll fix the rest. We'll talk some shit, laugh a lot, pull up a chair and just
grab your chop. Round this stick of cheese, blow this game, and get high with me. Grab your chop. Round this stick of cheese, blow this game.
Accent d'Europe, Catherine Potet.
Carnet de voyage, nous parcourons cette semaine une contrée méconnue, la Gagaouzie, petite région autonome du sud de la Moldavie qui compte 150 000 habitants turcophones. Marianne Paul-Boncourt et Patrick de Sinetti ont séjourné un mois dans ce pays et ils en ont rapporté un livre, Voyage au pays des Gagaouzes, aux éditions Cartouche. Aujourd'hui, Patrick de Sinetti se souvient d'une excursion mémorable dans la campagne gagaouze. Il raconte au micro de Laurent Berthaud.
Cette excursion dans la Gagaouzie profonde avait été organisée par le Bashkan, enfin le futur Bashkan en fait, donc le leader de l'opposition politique, qui est un ancien militaire et qui avait préparé cette petite excursion de façon très structurée. Simplement, la chose est un peu partie en capilotade et il nous avait confié à l'un de ses amis qui est député au Parlement gagaouze, qui est un joyeux de riz, qui évoque un peu les personnages qu'on voit dans les films de Kusturica par exemple. Voilà, donc il nous a conduit dans son village natal et il nous a présenté un certain nombre de membres de sa famille, d'amis, souvent de vieux paysans qui possèdent dans les profondeurs de leur maison des réserves de vin auxquelles on a abondamment goûté. On fait d'excellents vins en Moldavie d'ailleurs. Et alors en effet, c'était très folklorique.
Vous avez fait donc plusieurs rencontres. Vous avez rencontré donc des artistes et parmi eux, un, je ne sais pas si on peut dire un sculpteur ou un artiste peintre sur cucurbitacées qui vous a assez marqué.
Notre ami artiste en question fait de la pyrogravure en fait sur des concombres qu'il fait sécher dans la cave de sa maison, lui aussi. Et c'était amusant, mais je pense que c'est une tradition qu'on retrouve un peu partout dans les Balkans. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils avaient rencontré un artiste de la même eau en Slovaquie et qu'ils avaient rapporté même à Paris des cucurbitacées slovaques. La scène artistique gagaouze est assez vivante en fait. Il y a pas mal de peintres, de paysagistes, il y a des écrivains aussi nombreux qui se sont mis à écrire en gagaouze après la chute de l'Union soviétique, après que la pratique du gagaouze ait été à nouveau autorisée. Il y a des musiciens, des danseurs, enfin il y a vraiment tout ça participe aussi de la renaissance de l'identité gagaouze.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot, mise en onde de Cyril Etienne. Demain, vous retrouverez Frédéric Lebel.